Bref, continue à la SNCM, sur le port autonome et dans les transports urbains. Le prix Nobel d'économie à un Américain et à un Israélo-Américain, Thomas Schelling et Robert Aumann, sont récompensés pour leur analyse de la théorie du jeu, une théorie qui a, paraît-il, permis d'expliquer les conflits économiques tels que les guerres des prix. On va maintenant à la Bourse de Paris.
La Bourse, avec Union Financière de France, Banque Conseil en création et gestion de patrimoine.
Antoine Verlin, bonjour.
Bonjour Claire.
Tendance à la hausse à la Bourse de Paris.
Effectivement, la Bourse de Paris démarre la semaine avec un peu plus d'entrain qu'elle n'avait conclu la précédente. Pour autant, la tendance est quand même plutôt plate. Depuis l'ouverture, le CAC 40 évolue dans une étroite fourchette et campe actuellement sur une hausse de 0,61% à 4 556 points dans un volume d'affaires assez moyen. Seulement 1,3 milliard d'euros ont été négociés. Côté statistique, aucun chiffre américain n'est attendu avant jeudi, ce qui pourrait nous valoir, comme aujourd'hui d'ailleurs, jusque-là, une tendance plutôt terne. Sur le marché des devises, l'euro recule de 0,38%, il revient à 1,2098. Je vous rappelle le CAC 40, lui, il gagne 0,61% à 4 556 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
L'arrivée du quintet à Chantilly, pour gagner, il fallait jouer le 9, le 17, le 16, le 13 et le 12. 9, 17, 16, 13 et 12. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un géant du cinéma mort il y a 20 ans, jour pour jour, le 10 octobre 1985, Orson Welles.
Death is my real secret, and you're the first man I ever told it to. I do not know who I am.
D'histoire. Orson Welles est mort il y a 20 ans, aussi seul que son héros le plus célèbre, Citizen Kane, et en laissant comme lui le souvenir d'un personnage inclassable. Comment pourrait-on d'ailleurs définir un homme qui disait lui-même dans un de ses films « Mon secret, c'est que je ne sais pas qui je suis ». À la fois réalisateur, directeur de troupe, animateur de radio, scénariste et acteur, auteur à 26 ans d'un film qui figure toujours parmi les 10 plus grandes œuvres du cinéma, ce touche-à-tout de génie s'était déjà rendu célèbre 3 ans plus tôt à la radio en terrorisant l'Amérique entière. Le 30 octobre 1938, en faisant passer une adaptation de La Guerre des Mondes pour un reportage en direct, Orson Welles avait jeté dans les rues des millions d'Américains affolés qui ont cru ce jour-là que les Martiens avaient vraiment débarqué sur la Terre.
Nous interrompons notre programme de musique dansante pour vous communiquer un bulletin d'information. Et nous rejoignons Carl Phillips à Grover's Mill. Là où je suis, je peux voir toute la scène. Et je vous donnerai chaque détail aussi longtemps que je le pourrai. Les renforts de police sont arrivés et forment un cordon de protection autour du cratère. Attendez, il se passe quelque chose. Une forme bossue sort du cratère. Un jet de flamme appelé les gens situés au premier rang. Seigneur, ils prennent feu. Maintenant, c'est le champ tout entier qui prend feu. Les flammes viennent par ici, elles sont à 20 mètres.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill.
Mesdames et messieurs, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous sommes dans l'impossibilité de poursuivre notre émission depuis Grover's Mill.
Alors que les auditeurs de France Inter se rassurent, ce que l'on vient d'entendre, ce n'est pas un flash spécial d'information, mais une fiction de Orson Welles diffusée aux États-Unis il y a presque 70 ans. Youssef Cheikhpour, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un travail monumental, en 3 volumes, plus de 2500 pages, s'il vous plaît, vous parlez de l'ensemble de l'œuvre de Welles, en commençant bien sûr par le cinéma, mais aussi, on l'oublie souvent et on vient de l'entendre, il a commencé avec le théâtre et la radio. La radio, c'est même ce qui l'a fait connaître un peu dans le monde entier, en tout cas dans tous les États-Unis, avec cette fameuse scène de la guerre des mondes où tout le monde, je crois que des millions d'Américains ont eu très peur.
Plusieurs millions, oui, oui. C'est dans l'est des États-Unis surtout, parce qu'à côté de New Jersey, là où les Martiens étaient censés d'avoir atterri. Disons que Orson Welles est célèbre pour ses films, mais essentiellement, il a été déjà célèbre à cause de son théâtre. C'est pour ça qu'on l'a fait venir à la radio. Et à la radio, il a fait cette émission sur la guerre des mondes pour le Halloween.
Parce qu'il avait l'habitude. Il le dit d'ailleurs au début de l'émission, mais pour les gens qui ont pris l'émission en cours, évidemment, ils ont pris
il y a beaucoup de gens qui ont pris l'émission en cours, et même ceux qui n'avaient pas pris l'émission en cours, l'émission est faite de telle façon, c'est-à-dire que c'est fait en direct. Et ce qui a étonné beaucoup de monde, c'était comment les gens avaient pu croire que les Martiens avaient pu quitter entre le moment où les Martiens quittent la planète et le moment où ils détruisent New York, ça prend à peu près 40 minutes. Comment est-ce que c'était possible que les gens croient à cela? Donc il y a plusieurs choses, parce que d'abord il y avait l'importance de la radio à l'époque. La radio était la seule source d'information. Et surtout, juste avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait constamment, on interrompait les programmes pour donner des bulletins d'information.
Alors, il avait 23 ans, il faut le rappeler. Il est né à Kenosha, dans le Midwest, en 1915. Alors, on dit, il y a toute une légende qui dit qu'à 2 ans, Wells lisait déjà, qu'il jouait du violon à 3 ans, qu'il adaptait Shakespeare à 5 ans, qu'il était metteur en scène à 7 ans. Est-ce que c'est une légende ou une réalité?
Non, c'est une légende. D'ailleurs, lui-même toujours s'est moqué plus tard de, à la fois de la légende et à la fois de ce qu'il avait été, c'est-à-dire il disait qu'il avait joué les enfants terribles chef d'orchestre en voulant faire plusieurs choses. Mais il est évident que pour avoir pu faire ce qu'il a fait au théâtre, quasiment à l'âge de 20 ans, parce que c'est pas simplement quelqu'un qui était important à la radio ou au cinéma, mais c'est un des plus grands metteurs en scène du théâtre américain.
Alors, assez curieusement, le théâtre, il l'aime beaucoup tout de suite. Il faut rappeler que ses parents, qui étaient assez originaux, qui vivaient séparés, sont morts quand il était encore très jeune. Je crois qu'il était orphelin à l'âge de 15 ans. Et le théâtre, il va en faire vraiment, surtout, en arrivant en Irlande, après la mort de son père, il a 17 ans, il se fait passer pour un grand acteur américain et il rentre, je crois, au Gaiety Theatre de Dublin.
Oui, c'est-à-dire qu'il avait fait un peu de théâtre aux États-Unis dans un lycée particulier où il avait été collégien. Et ensuite, il était allé en Irlande pour faire la peinture, parce qu'il voulait faire la peinture. Et il se trouve qu'à un moment donné, il n'a plus un sou. Et il a donné tous ses tableaux, c'est l'hiver, et il est obligé de survivre. Et il va donc à ce théâtre où il se présente comme un des grands acteurs de Broadway. Évidemment, les gens qui deviendront ses amis, après les directeurs de ce théâtre, qui joueront même dans son film Othello, n'y croient pas un mot. Mais il voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de possibilités. Donc on lui donne immédiatement, d'ailleurs, le premier rôle qu'il joue, c'est un rôle de quelqu'un de 80 ans.
Alors il tourne, il joue au théâtre, il rentre ensuite aux États-Unis en passant, je crois, par l'Espagne, où il s'est passionné, je crois, pour la tauromachie. Et alors il va monter aux États-Unis sa propre troupe, le Mercury Theatre on the Air, c'est-à-dire en fait celle qui va jouer des pièces radiophoniques, dont la plus célèbre a été La Guerre des Mondes. Et puis avec un tel succès après La Guerre des Mondes que tout de suite on l'appelle à Hollywood, la RKO, qui est une des plus grandes entreprises de cinéma de Hollywood, va même lui signer un contrat en or, comme jamais aucun acteur ou réalisateur n'en a eu avant, et comme lui-même n'en aura plus après.
Oui, c'est rare aux États-Unis que quelqu'un puisse être à la fois le producteur, le scénariste, le metteur en scène et le principal acteur d'un film. Donc c'était cette conjonction, et en même temps donc la liberté de de superviser la dernière coupe, c'est-à-dire le montage final de son film. Donc c'est à partir de là. C'est vrai qu'Hollywood a donné énormément de possibilités à Orson Welles, et c'est qu'en arrivant à Hollywood, d'ailleurs, il avait dit que c'était un train électrique, le plus magnifique train électrique qu'on pouvait offrir à un enfant. Et donc c'est ça, il a toute sa vie d'ailleurs gardé cette nostalgie de cette machine.
Et cela pour ce qui est à la fois le premier et le plus célèbre de ses films, présenté par Orson Welles lui-même aux Américains le 1er mai 1941.
How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles.
C'est Orson Welles qui vous parle du théâtre Mercury. Et je suis censé vous présenter notre premier film.
Citizen Kane is the title.
Citizen Kane, c'est le titre, et nous espérons que vous l'aimerez.
Alice Foster Kane is nothing more or less than a communist.
Well, of course I love him. He's the richest man in America.
He's crazy.
He's wonderful.
Citizen Kane is a modern American story.
Citizen Kane est l'histoire moderne d'un Américain appelé Charles Foster Kane.
I don't know what you'll think about Mr. Kane.
J'ignore ce que vous penserez de Monsieur Kane. Je ne veux pas le savoir, voyez, c'est moi qui joue le rôle.
Kane is a hero.
Kane est un héros. Une ordure,
no account,
un lâche,
well guy,
un type
a great
sympa,
lover,
un bon amant,
a great American
un bon citoyen américain et un salaud.
It depends on who's talking about him.
Tout dépend de qui on parle.
Good evening, Mr. Kane. There is a man. A certain man. And for the poor, you may be sure that he'll do all he can. Who is this one?
Who is this one?
His favorite son.
Favorite son.
That by inaction has the traction magnets on the run. Who loves to smoke? Enjoy your joke. Upset if he were really broke with wealth and fame. He's still the same. I'll bet you find him on a line and you don't know his name. What is his name? What is his name?
Et c'est la chanson de Citizen Kane. Dans votre livre, Youssef Ishakpour, qui est moins une biographie qu'une analyse de l'œuvre de Welles, vous consacrez quand même 200 pages à Citizen Kane, qui est le plus important de ses films, évidemment. C'est pour ça.
C'est, disons, au point de vue de l'histoire du cinéma, c'est le plus important. Peut-être au point de vue, si on regarde l'ensemble des films de Welles, c'est autrement. Mais au point de vue de l'histoire du cinéma, ça c'est vrai que Citizen Kane, c'est un peu, disons, avec ce film-là, Orson Welles a voulu être le Picasso du cinéma. C'est très simple.
Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, faut peut-être rappeler en deux mots l'histoire.
Bon, l'histoire, ça se présente comme une chose très simple. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui meurt en disant un mot, on va essayer de découvrir le sens de son mot en faisant des enquêtes auprès des gens qui l'ont connu.
Alors le mot c'est Rosebud, c'est le roi de la presse des États-Unis.
Oui. Et donc, ce quelqu'un, le roi de la presse, est un homme extrêmement riche. Extrêmement, extrêmement riche. C'est ça l'idée du film, c'est un film sur la richesse. Donc, on va découvrir qu'en fait, cet homme, au moment de mourir, avait pensé, le mot Rosebud qu'il dit, c'était marqué sur un traîneau qu'il avait eu enfant, étant enfant, et quand il était, voilà, quand il était pauvre. Donc, c'est une manière de critique, si vous voulez, de l'idée de la richesse en Amérique. Disons, c'était la manière dont l'histoire était racontée qui était un petit peu, qui était très gênant pour l'époque.
Oui, mais très gênant, surtout pour quelqu'un, Youssef Ishakpour, qui s'est reconnu dans le personnage de Kane. C'était le roi de la presse à scandale aux États-Unis, qui était William Randolph Hearst. Hearst, dont on dit qu'il a voulu empêcher la sortie du film.
Il a voulu empêcher la sortie du film parce que il y a des éléments qui viennent de sa vie, mais il y a d'autres éléments qui viennent de la vie de d'autres grands magnats des États-Unis, magnats de pétrole, magnats d'électricité. C'est-à-dire que ce que Welles a voulu faire, c'est une sorte de mythe du grand baron américain. Mmh. C'est ça.
Alors une réussite, l'accueil des critiques est plutôt chaleureux malgré les obstacles que met la presse de Hearst. Cela dit, il y a moins de public il y a des critiques élogieuses, mais le public n'est pas suffisamment présent. Ça fait quand même partie des très grands films du cinéma. Pourquoi, Youssef Ishakpour, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, ce film?
Ce qu'il apporte de nouveau, je viens de le dire, c'est-à-dire que par rapport à l'histoire du cinéma, c'est disons Picasso. C'est-à-dire que c'est une manière de remise en question totale de ce qu'était le cinéma classique, un bouleversement total. Et pour une raison très simple, c'est que véritablement, c'est le premier film en quelque sorte parlant du cinéma. Le cinéma, ça existe en tant qu'au cinéma parlant. Avant, mais on avait intégré la parole, si vous voulez, comme à l'intérieur de l'histoire, voilà. Tandis que lui, il est parti de cette idée, il a renversé tout à partir de là.
Alors souvent, il a 26 ans, c'est son premier film. Pour un coup d'essai, c'est plutôt un coup de maître. Et pourtant, il a dit plus tard que, en parlant de ce film, parti du sommet, désormais je décline. Comme si ce qu'il avait fait après n'était qu'un lent déclin qui a duré quand même plus de...
Non, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un sommet, l'idée du sommet, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'il a porté depuis le théâtre, la radio, jusqu'à ce film. Et ensuite, bon, il n'a pas pu continuer de faire ce qu'il voulait. Et donc après, il a décliné.
Alors on lui met très vite des bâtons dans les roues, effectivement. Son deuxième film, La Splendeur des Anderson, est amputé de 40 minutes sans son accord. Alors on l'embête beaucoup, au point d'ailleurs qu'il va partir en Europe, un peu comme le fera juste après lui Charlie Chaplin. Il va partir donc pour se retrouver en Europe en 1949.
On tourne, mais à la veille du premier tour de Manivelle, le tout cinéma a fêté chez Carrère l'arrivée d'Orson Welles, que présentait son producteur Jacques Gauthier, entouré de Maria Montez, Pierre Brasseur, Arletty et Eric von Stroheim. Celui qu'on a surnommé l'enfant terrible d'Hollywood va tourner en effet un film en France, mais déjà Mistinguette, Daliot, Jules Berry, Roland Toutain et nombre d'autres lui fournissaient hors cinéma un plateau de haute qualité.
Et c'était Orson Welles en Europe en 1949, dans cet archive pâté, plus apprécié semble-t-il d'ailleurs en Europe que dans son pays. Mais pourquoi s'en va-t-il comme ça?
Pour des raisons très 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 triviales. C'est-à-dire qu'il avait engagé toute sa fortune dans une pièce de théâtre qui était justement à partir de Jules Verne, le voyage autour de la Terre. Et il avait tellement, tellement dépensé, il avait tout dépensé et sans prendre des précautions. C'est-à-dire qu'après, il était complètement en faillite et il devait beaucoup d'argent au fisc. Et il ne pouvait plus toucher un centime aux États-Unis. Et en même temps, il avait des difficultés pour tourner des films. Il a cru qu'il pouvait faire des choses en Europe, c'est pour ça qu'il est venu.
Mais pourquoi aussi est-ce qu'on lui fait des difficultés? On dit souvent que c'est parce qu'il était totalement incontrôlable, parce qu'il coûtait trop cher, parce qu'il dépassait très largement l'argent qu'on lui donnait.
Non, ça c'est faux. Tous les grands metteurs en scène, même actuels des États-Unis, dépensent infiniment plus d'argent que lui, ont des dépassements de budget infiniment plus grands. Simplement, on a fait venir Welles à Hollywood en croyant que c'était un homme des médias. Or, Welles a voulu jouer, si vous voulez, a voulu être un grand créateur. Et le public n'a pas suivi. Le public n'a pas suivi et les films n'ont pas marché. Hollywood, c'est une industrie où il faut que ça rapporte. Et on ne voulait pas de quelqu'un qui ne rapportait pas d'argent et qui prétendait bouleverser constamment l'industrie de cinéma. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas gardé.
Alors en Europe, il va y aller en Europe, en Afrique du Nord aussi, où il va tourner un de ses plus beaux films, Othello, d'après Shakespeare, l'histoire de ce Vénitien qui va tuer sa femme, la belle Desdémone, qu'il soupçonne de le tromper, parce qu'elle aurait donné son mouchoir à un amant.
Have you not sometimes seen a handkerchief in your wife's hand? Did you see the handkerchief?
Was that yours? Desdemona gave it him, and he hath given it his whore.
Yet she must die. Else she'll betray more men.
Lend me thy handkerchief.
I have it not about me.
The handkerchief!
Et c'était un extrait de la bande annonce d'Othello qui recevra la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1952.
Oui. Pour faire ce film, il a mis 4 ans. Il l'a fait avec son propre argent. Il a dû jouer dans énormément de films, faire toutes sortes d'émissions de radio pour ramasser l'argent pour finir ce film.
Pour finir Othello après qu'il ait fait Macbeth. Avant qu'il fasse Falstaff, avant qu'il rêve de faire, il ne fera jamais le roi Lear. Shakespeare est omniprésent, Youssef Ishakpour.
Oui, Shakespeare, c'est un peu pour quelqu'un qui fait du théâtre, qui est de langue anglaise, c'est un peu la Bible. Donc, il a grandi. Il a pas lu Shakespeare avant de naître, mais il a grandi avec Shakespeare. Il le connaissait parfaitement, et donc c'est sa maison, un peu où il revient constamment. D'ailleurs, Shakespeare n'a pas joué simplement un rôle par rapport à Orson Welles. Il a eu la même importance pour Melville qui a écrit Moby Dick. Donc, c'était
pour
essentiel.
Il a fait le
procès d'après Kafka. C'était le seul film de commande parce qu'il ne pouvait plus rien faire et on lui a commandé, il l'a fait. Mais Shakespeare, c'était beaucoup plus essentiel pour lui. Il y revenait constamment et donc il a fait trois films, il a fini trois films qui sont très différents. Trois films très différents et le quatrième qui n'a pas pu finir aurait été aussi un film très différent.
Et le tout tourné avec des bouts de ficelle et avec de l'argent, vous le dites, Youssef Ishakpour, qu'il gagne au fond comme acteur. On a presque l'impression, lui qui a été un grand acteur, on se souvient de son passage dans d'abord dans ses films, sauf l'un qui était La Splendeur des Amberson, je crois qu'il n'apparaît pas, mais dans tous ses films il apparaît. Et puis alors dans une série d'autres films comme Le Troisième Homme extraordinaire, mais alors des films aussi de moins grande qualité, on verra dans le rôle d'un chef tartare, dans Le Roi Saül, dans David et Goliath, Fulton, dans Austerlitz, et il tournait, alors que c'est un grand acteur quand même, il tournait pour gagner justement de quoi tourner ses films.
C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'en fait, Orson Welles a subventionné même dès le départ son théâtre. C'est-à-dire que le théâtre avait des subventions d'État, mais Orson Welles était à l'époque quelqu'un de très célèbre à la radio. Et il faisait beaucoup d'émissions à la radio, et ce qu'il gagnait à la radio, il l'investissait pour en pure perte. D'ailleurs, il a dit qu'il était le seul américain à avoir subventionné l'État. Et il a investissé dans un programme, et c'est comme ça que ces pièces de théâtre ont marché. C'est-à-dire qu'il a toujours investi, il a tout fait par rapport à son travail, jusqu'au bout.
Et pour des projets souvent qui sont avortés, parce qu'il y a une quantité, il y a plus de films. D'abord, il y a peu de films qu'il a signés intégralement lui-même, très peu en réalité. Au total, disons à peu près une dizaine, mais alors une quantité de projets qui n'ont jamais vu le jour. Un Don Quichotte qui est resté dans ses cartons pendant des années, qui n'est jamais sorti. Un Marchand de Venise, il y a encore Shakespeare. Le Roi Lear, The Other Side of the Wind, tout ça c'est des projets. On a l'impression, pas d'un velléitaire, mais de quelqu'un qui n'arrive jamais à bout. Pas toujours à bout de ce qu'il veut faire.
Oui, c'est-à-dire que la différence, il fait la même chose que les peintres ou les écrivains. Simplement, le cinéma, ça coûte très cher. Le cinéma, ça coûte très cher. Quand vous avez un projet, si vous n'arrivez pas à mettre tout l'argent bout à bout pour terminer le film, vous êtes obligé d'abandonner au milieu. Ce qui arrivait très souvent, c'est qu'il était obligé de s'engager pour un deuxième travail, en espérant, avec l'argent qu'il gagnerait dans le deuxième, de pouvoir finir le premier, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il était, c'est pas du tout un velléitaire, c'est-à-dire l'idée des films inachevés, des films pas faits, c'est pas seulement le cas de Welles. Il y a beaucoup de scénarios et de projets qui se font. Simplement, bon, peut-être avec Welles, c'est plus connu parce qu'il est allé jusqu'à tourner des morceaux.
En tout cas aussi peut-être parce qu'on ne lui donne pas les moyens que lui refuse justement Hollywood d'où il est en quelque sorte banni, jusqu'à son retour où il revient triomphalement en
1975.
My heart is full. With a full heart, with all of it. I thank you.
Mon cœur est rempli de joie. Je vous remercie.
This honor I can only accept in the name of all the Mavericks. The truth is,
je n'accepte cet honneur qu'au nom des brebis galeuses. Et en vérité, je ne crois pas que cette soirée aurait pu me réjouir sans cela, sans ma propre différence.
Particular contrariety. Just by way of saying good night.
Je vous dis bonsoir. Moi qui garderai le souvenir, non pas d'une soirée de gala, mais d'un heureux retour au pays. Je demeure votre obéissant serviteur, et aussi en cette ère de supermarché, votre bonne vieille épicerie de quartier.
Your friendly neighborhood grocery store.
Vous avez vu sourire Youssef Ishakpour, c'est beau cette phrase.
Effectivement, c'est un épicier dans la mesure où les films se font avec, disons, de marketing à l'avance, tout est programmé. C'est pour ça qu'on sait à peu près non seulement qu'est-ce qu'il y aura dans le film, mais où est-ce qu'on va déjà le vendre, et tout ça par rapport à ça, c'est effectivement Orson Welles, c'était un petit épicier de quartier, et surtout ce qui qu'il dit, c'était la brebis galeuse.
Maverick.
Et, oui. Et donc, il est effectivement, enfin, ce qui fait qu'on parle toujours de Wells, ben Wells n'existe que par cette différence.
Il est accueilli triomphalement et pourtant on lui donne pas plus de moyens qu'avant.
Absolument pas. D'ailleurs, plus tard, on va lui faire le triomphe aussi à Paris avec, en le nommant commandeur de la Légion d'honneur et il n'aura pas plus de moyens. C'était un personnage qu'on fêtait, si vous voulez, pour se fêter soi-même et pas pour lui. On lui donnait pas les moyens. D'ailleurs, il a eu beaucoup de mal avec la jeune génération des producteurs d'Hollywood qu'avec les vieux.
Et d'ailleurs, jusqu'au bout, c'est assez pathétique. On va le voir apparaître dans des publicités, à la télévision, et faire de la télévision aussi. Hein,
il fait de la télévision, et à la fin, il fait même plus. Il faisait de la publicité à la radio pour une chaîne de restaurants bon marché pour vendre des steaks hachés, des choses comme
c'est
ça. Pathétique, oui, parce que il n'a pas accepté de s'aligner. Aux États-Unis, il y a toute une mythologie autour de ce personnage qui se serait sabordé, qui aurait voulu.
Oui, on dit autodestructeur.
Voilà, autodestructeur. Il est autodestructeur dans le sens où, parfaitement, s'il avait voulu, c'est-à-dire que s'il n'avait pas voulu être Orson Welles, et s'il avait voulu rester un homme des médias, il aurait pu gagner $1 million par soir à la télévision. C'est certain.
Il est mort très seul à la fin, je sais pas, je crois qu'on l'a découvert quelques heures après sa mort, d'une crise cardiaque.
Oui.
Et alors, j'ai été étonné, j'ai revu Citizen Kane, et je me rends compte que Citizen Kane, dans le film de fiction qu'il a tourné en 1941, est mort à 70 ans, c'est-à-dire l'âge exact auquel est mort Orson Welles, comme s'il avait voulu ressembler au personnage.
Disons que quand on a écrit le scénario d'Orson Welles, on a beaucoup le scénario de Citizen Kane, on a beaucoup pensé au personnage d'Orson Welles. Il y a d'autres choses, par exemple le fait qu'il est séparé de sa mère à l'âge de 9 ans, c'est l'histoire de Welles, c'est pas l'histoire de Hearst. Il n'a jamais été séparé de sa mère.
Ah, il est mort il y a 20 ans, jour pour jour, oui. En octobre 1985. Qu'est-ce qui reste de lui? Il a tellement profondément marqué, dites-vous, le cinéma, qu'on peut se demander, est-ce qu'il y a une postérité?
Bien sûr qu'il y a une postérité. Tout ce qui, disons qu'à part peut-être des gens qui avaient commencé avant la guerre, un petit peu, mais tout ce qui s'est fait après la Seconde Guerre mondiale a apporté la marque de Welles.
Merci Youssef Ishakpour. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un ouvrage en 3 volumes, 2500 pages, ça c'est pour les passionnés de Welles et du cinéma, qui a été réédité en coffret et qui paraîtra le 14 octobre aux éditions La Différence. Orson Welles, la caméra visible. Pourquoi la caméra visible?
Parce que justement, c'est le travail de ce cinéma qu'il a fait, c'est de rendre, si vous voulez, présent aux spectateurs tout le travail du film.
Je rappelle que vous êtes également l'auteur de Historicité du cinéma, publié aux éditions Farago, donc de mon invité d'aujourd'hui, Youssef Ishakpour. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1949, un extrait de Citizen Kane d'Orson Welles, deux vidéos disponibles chez Montparnasse Éditions, ainsi que des extraits du documentaire Orson Welles et Hollywood, de Jacques Audard et Vassili Silovitch, diffusé il y a quelques années sur Arte. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Stéphane Devernel, Edwin Caron, Camille Pouche-Jalaguier et Claire Tessier, ainsi qu'à la réalisatrice Anne Comilac.